blanche.
Le public est en feu pour le lancement de ce 40 nuances de Next à l'occasion de France Digital Day, le FD Day pour les intimes. On est avec Clément Del Pirou, d'IA des Infinity.
C'est pas moi qui chante.
Écoute, tu m'avais vendu du rêve. Pourtant, t'as ta guitare, tu fais de l'air guitare.
Absolument.
En studio.
Avec énormément de talent.
Et on va te découvrir pendant une petite heure. C'est un format un peu spécial, donc je le précise pour nos auditeurs. On n'aura pas deux heures ensemble, mais 50, 55 minutes si j'arrive à te faire rester plus longtemps. Mais je crois qu'ensuite, à la minute près, tu retrouves tes enfants.
Je disparais comme Sandrine. Voilà.
Donc on verra quand même l'aventure de la citrouille. Et pour nous parler d'IAD, tu as choisi une chanson de Bruce Springsteen.
Absolument.
Pourquoi ?
Growing up, grandir, qui est à peu près la définition courte, la plus pertinente pour qualifier l'aventure d'IAD depuis 2008, partie comme toutes les belles histoires d'entrepreneuriat d'un garage. Celui-ci était en Seine-et-Marne.
Un vrai garage.
Si tu regardes sur LinkedIn, tu verras que nos conseillers qui sont très créatifs et imaginatifs font des montages des garages Google, Facebook, Amazon et du garage IAD.
Ok.
Et donc partir de ce garage pour arriver aujourd'hui à 19 000 conseillers dans 6 pays, 30% de croissance, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc une grosse machine.
Bon, notre ami Olivier Mathieu n'est pas avec nous, mais il m'a quand même envoyé sa petite note parce qu'il avait prévu une introduction sur IAD Infinity. Alors, je vais le citer. N'hésite pas à dire qu'il raconte n'importe quoi. En plus, il n'est pas là pour te répondre ensuite. Mais normalement,
il
fait toujours bien sa petite recherche. Donc, IAD, né en 2008, vous avez choisi un modèle sans agence immobilière. Vous vous appuyez uniquement sur le numérique et sur un maillage de travailleurs indépendants. On ne peut pas les appeler les agents, je crois. En 2020, voilà. Pas en France. En 2021, c'est 14 000 donc mandataires, dont 12 500 en France. On peut vous qualifier de concurrent de Orpi, de Century 21.
Confrères, oui.
Voilà, des confrères, mais des acteurs plus traditionnels. Je pense qu'ils ne se vexeront pas si on le dit. En 2021, le chiffre d'affaires était de 370 millions d'euros. Vous avez fait une levée de 300 millions d'euros avec Insight.
Entre autres,
oui. Oui, je vois BlaBlaCar, Contest, Twitter.
Parmi leurs faits d'armes, exactement.
Exactement. Et une valo estimée à 1,2 milliard d'euros.
C'est ce qu'on a lu dans les journaux.
Très bien. Je comprends que tu ne peux pas complètement commenter les chiffres. Tu es Clément Del Pirou, je l'ai dit. Le président Roland Tripart vient de se loger.
Alors Roland, c'est notre chairman, ouais, il était chez Se Loger et on travaille en binôme.
Okay.
Moi, je suis le président d'IAD depuis maintenant, je suis dans la société depuis plus de deux ans et depuis une grosse année, j'en suis le président.
Très clair. Donc, alors là, je lis les notes en parallèle, mais c'est peut-être des questions qu'Olivier souhaitait te poser. Licorne ou Centaure, point d'interrogation.
Les deux, mon capitaine.
Voilà, lui, il a dit, ils sont les deux, à la fois la valo, le chiffre d'affaires. Il y a une accélération internationale en Europe, notamment, des gros enjeux techno, d'investissement, une plateforme pour ne pas se faire rattraper. Alors là, je lis vraiment en direct les notes qu'il vient de m'envoyer, parce qu'il m'a dit je suis bloqué de l'autre côté du FD Day. Il a un sujet face à la crise, quid des hausses des taux, du marché immobilier, bref, je pense que tout ça...
Des questions d'actualité.
Exactement, des questions d'actualité. Je te propose de lancer officiellement ton 40 nuances de Next.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus ? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Alors IAD, c'est pas la boîte la plus connue, en tout cas de ma part, du Next 40. Et pourtant, je l'ai dit avec les notes d'Olivier, les chiffres sont fabuleux.
Qui plus est, il date d'il y a un an et demi, puisque aujourd'hui, on est plutôt autour de 530 millions d'euros de chiffre d'affaires et quasiment 19 000 conseillers. Mais...
Alors justement, parlons de la marque IAD. Pourquoi ? Et est-ce qu'il y a un sujet de noto ? Est-ce que c'est moi qui ne vois pas assez ce qui se passe ?
Je dirais un peu des deux, hein, sans vouloir te manquer de respect.
Il y a
un premier sujet qui est que IAD a longtemps évolué en dessous des radars, parce qu'effectivement, ça fait maintenant 2 ans qu'IAD est le leader de la transaction immobilière en France, donc un peu au-dessus des acteurs historiques que tu mentionnais tout à l'heure, mais que précédemment, sa croissance a été régulière, mais récente, puisque la société a été créée en 2008. Et que dans son mode de fonctionnement et de communication, elle n'a jamais cherché, puis ça n'a pas changé, à se mettre sous les projecteurs. Donc ça c'est tout à fait juste de dire ça. C'est-à-dire que nous,
parce que je trouve ça intéressant. Il peut y avoir un sujet d'ego parfois pour les entrepreneurs, pour sa maman, pour son papa, de passer dans les médias ou plus globalement pour l'écosystème. Quel est l'intérêt ou le choix d'être plutôt low profile ?
Je pense que ça correspondait à la personnalité des fondateurs, ça correspondait aussi à la mentalité de challenger d'IAD, et que la capacité à communiquer, à raconter des histoires, et peut-être que aussi l'intérêt des parties prenantes, des médias, des pouvoirs publics, il grandit quand on devient leader sur son marché. Et c'est vrai qu'en face de nous, ou à côté de nous, on a des structures qui existent depuis 50 ans, qui communiquent depuis 40. Nous, on existe depuis 14 ans, on communique depuis 5. Donc ça, c'est un premier facteur d'explication. Le deuxième, il est un peu lié à l'endroit où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que Paris n'est pas le territoire d'expression numéro un d'IAD. Mais si tu vas en Seine-et-Marne, si tu vas dans l'Essonne, si tu vas en Charente-Maritime, c'est des départements dans lesquels notre part de marché va entre 10 et 25%. Et tu ne peux pas faire... Non, c'est gigantesque, comparé à nos quasiment 6% de part de marché en national. Et tu ne peux pas faire un kilomètre sans voir le panneau d'un agent IAD. Donc maintenant qu'on en a parlé, je suis certain que ça,
Maintenant, ça
accrochera ta rétine pour le futur. Et donc voilà, je pense que c'est un combo de ces deux facteurs.
Non, tu ne m'as pas manqué de respect, tu m'as juste rappelé que j'étais juste parisien et que c'est...
Oups.
Tu as évoqué l'international. On a justement une question à ce sujet. Je te propose de l'écouter. Ça nous permettra une super transition. Pour les auditeurs, vous allez voir, tout va être beaucoup plus accéléré qu'à l'accoutumée. On a 50 minutes avec Clément.
Vous avez un message.
Bonjour Clément. Une question pour toi sur le développement international d'IAD. IAD aujourd'hui est leader en France, se développe très vite au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne et même au Mexique. Comment gères-tu ce développement à l'international et quelles sont tes ambitions ?
Cette question elle est de Rémi Butiau, qui est un de tes invests.
Absolument.
JK Partners.
Oui, c'est lui qui pilote la relation avec IAD. Et il se trouve que par ailleurs je le connais depuis longtemps et comme c'est un investisseur avisé, il met le doigt sur un des facteurs clés du développement d'IAD. Là, on a pas mal parlé dans les minutes qui viennent de passer de notre leadership en France. Un des autres moteurs de la fusée, c'est le développement international, qui a démarré en 2015 chez IAD, avec le Portugal, pour des raisons de diaspora communautaire évidente. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'agents franco-portugais qui nous ont dit « Pourquoi est-ce que vous n'allez pas là-bas ?»
Donc ça a été à l'opportunité.
Exactement, parce que le Portugal, c'est un petit marché immobilier. Hein. À l'époque, c'était un 1/11 de la France. Ça a beaucoup grandi. Aujourd'hui, c'est plutôt un 6e. Et puis depuis lors, on s'est développé en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Mexique, dans une destination plus exotique. Et je dirais que l'enjeu particulier que Rémi connaît par ailleurs fort bien et dont on discute très souvent, c'est comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre un modèle global qui fait ses preuves et une adaptation locale. Une des grandes forces d'IAD, c'est que tout ce que j'ai raconté au début, ou tout ce que tu as à juste titre très bien souligné sur pas d'agence physique, on travaille avec des entrepreneurs, on a un modèle de rémunération qui est très atypique et très attractif, il est identique à la virgule près dans tous les pays. C'est-à-dire que l'agent qui est rentré hier au Mexique, il a les mêmes droits, les mêmes devoirs que les gens qui sont rentrés il y a 12 ans en France. On appelle dans notre jargon « one network », ça veut dire que tout le monde a le même contrat, tout le monde a la même chance sur la ligne de départ. Donc ça, c'est le côté très global d'IAD. Il n'y a pas de frontières.
Vous êtes très agressif sur les rewards pour...
En fait, on n'a pas d'agence physique d'un côté. De l'autre, comme on bosse avec, dans notre réseau, des conseillers en France, des agents à l'étranger, qui sont des entrepreneurs, ils n'ont pas de salaire fixe. Et ça nous permet de dégager des marges de manœuvre qu'on redistribue et aux conseillers avec un partage de la commission qui est bien plus favorable que la moyenne du marché. Parce qu'on redistribue plus de 81% aux conseillers.
Et une part pour l'acheteur ou le vendeur.
Évidemment, puisque dans tous les pays où on est présent, on pratique des tarifs qui sont 25% en dessous de la moyenne du marché. Et comme on aime à le dire au pouvoir public, sans se substituer à des ONG ou à des organisations philanthropiques, on rend 1 500 € de pouvoir d'achat aux Français sur chaque transaction immobilière.
Côté acheteur, du coup.
Le débat serait infini de savoir est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur qui paye. Techniquement, à la fin, c'est le vendeur qui paye, mais c'est dans le prix pour l'acheteur, donc c'est assez complexe. En tout cas, au français, avec un X à O et un S à la fin de français, on rend 1 500 € de pouvoir d'achat. Et ça, on le fait dans tous les pays. Et à l'inverse, la promesse d'IAD, qui est de devenir entrepreneur, de changer de vie, de se former, de construire un fonds de commerce à l'international, elle est multifacette et chacune de ces facettes résonne plus ou moins dans les pays. En Espagne, la composante formation est très importante. En Italie, la composante être son propre patron est très importante. Et donc, cette capacité qu'on se doit d'avoir, d'adapter à hauteur de, c'est pas scientifique, 15, 20, 25% le modèle pour le rendre, évidemment, réglementairement et en termes de promesses pertinents au niveau du tissu local, c'est une question qu'on se pose très régulièrement. Et on va se la poser d'autant plus qu'à l'addition de ces 6 premières géographies, on est actuellement en train de travailler au lancement aux États-Unis, en Floride et en Angleterre, qui sont des marchés très différents de ce qu'on connaît jusqu'à présent.
Ce modèle que tu as évoqué, qui est peut-être très différent des acteurs traditionnels, il se traduit très concrètement comment, dans la techno peut-être ?
Absolument, donc pas d'agence physique, ça veut dire pas de magasin avec des petits rectangles dans lesquels on présente les biens. Avec la conviction.
Dès que tu vois une affiche, généralement, c'était pour te faire rentrer, mais c'est plus en vente. Hein.
C'est possible. Après, moi, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon bonheur. Je pense qu'il y a une partie des Français et des Françaises qui ont envie d'être présents dans un lieu physique. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le parcours d'achat dans l'immobilier, il démarre sur Se Loger ou Le Bon Coin ou les autres portails pour sourcer des biens. Il se fait sur le bien lui-même pour la visite et il signe chez le notaire. Donc il y a une part significative d'acheteurs et de vendeurs qui estiment que l'agence physique n'est plus nécessaire. Et cette part, en 10 ans, si je la transpose dans la part des réseaux de mandataires, dont IAD est un des représentants les plus significatifs, elle est passée de 3 à 25% du marché et je pense que ça continuera à augmenter.
Du coup, en termes d'acquisition et côté bien, donc côté vendeur et côté acheteur, ça passe par quoi ?
Alors c'est deux logiques très différentes. Ouais. Vendeur, c'est un mélange du réseau social de la vraie vie de nos conseillers. Ouais. C'est-à-dire que on l'a pas mentionné jusqu'à présent, mais une des grandes spécificités, une grande atypicité d'IAD, c'est que 85% de nos conseillers viennent pas de l'immobilier. Donc avant ils faisaient un autre job, mais comme tout le monde, ils allaient jouer au foot le week-end, faisaient un barbecue avec leur famille et leurs amis, sont à la sortie de l'école. Donc le jour où ils rentrent chez nous et on les forme pendant un an. Bah, ils connaissent très bien leur tissu hyper local et ils savent sourcer des mandats. Et puis c'est évidemment à travers le digital, le SIA, qu'on va chercher des vendeurs.
C'est intéressant comme recrutement, parce que du coup, vous n'allez pas chercher des compétences très techniques sur votre métier, mais vous allez chercher derrière une personne, un réseau.
Un profil, une envie d'entreprendre, une passion potentielle pour le métier de l'immobilier.
Alors comme je ne veux pas que tu te répètes, parce qu'on a une question sur cette thématique que je te propose d'écouter, on pourrait être très complet sur eux.
Vous avez un message.
Salut Clément, j'aimerais bien que tu nous parles du profil type de l'agent IAD. Quel est son âge, quelle était sa situation ou son métier avant de devenir agent, qu'est-ce qu'il motive, est-ce que tu peux nous parler de tout ça?
Donc qu'est-ce qui le motive? C'est ce qu'on n'a pas abordé.
Ce qui le motive, et je vois bien...
Antoine Fraisse, pardon.
J'ai reconnu cette voix, en effet, celle d'Antoine Fraisse, qui est à la fois un ami proche et un investisseur très avisé à la tête de Kerala Ventures. Il y a deux questions dans la question. La première, c'est y a-t-il un profil type? Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on fait des études sur les conseillers AD en France, et c'est la même chose à l'étranger, ils répliquent quasiment parfaitement la population active française. Il y a juste un item sur lequel on n'est pas complètement aligné, c'est qu'on a 58% de femmes. Mais ce qui est assez classique dans l'immobilier, c'est pas très spécifique à IAD. En revanche, qu'est-ce qui le motive? C'est extrêmement clair, et pour le coup... Les 40% des conseillers qui viennent à nous à travers le digital aujourd'hui, ils tapent ces requêtes dans Google, ce qui me paraît une...
Devenir agent immobilier.
Changer de vie, devenir mon propre patron, devenir agent immobilier. Alors chez nous, c'est des conseillers, mais et pour le coup, ils ont cette volonté-là. Et d'ailleurs, le Covid pour IAD a été un formidable accélérateur. C'est-à-dire que le début de Covid, où il y avait la réunion d'équipe tous les matins, micro-manager, le rituel entre 9h et 9h30, où il fallait mettre la caméra et être bien peigné, il y a plein de gens qui se sont dit « j'en peux plus ».
Il me faut
Cette vie-là. Je veux une nouvelle vie, à la fois géographique, à la fois professionnelle. Et on n'a jamais acquis autant de nouveaux conseillers que ce qu'on a fait.
C'est pour ça que vous n'êtes pas à Paris.
On est un peu à Paris.
En proportion.
Ouais. Moins de 3% de part de marché, ouais. Mais en proportion, on est un peu moins fort. Et puis, on a en effet bénéficié, à la fois au niveau des conseillers, à la fois au niveau des transactions, de cette envie de verre, de cette envie d'espace des Français. Et puis, l'envie d'espace, elle est aussi dans mon espace personnel. Donc, conquérir sa liberté de temps et conquérir sa liberté financière. Et c'est les deux promesses qu'on fait de notre mieux pour remplir chez IAD.
Il y a... un sujet, c'est réglementaire, le fait de ne pas pouvoir les appeler des agents.
Absolument, pour être agent, il faut être...
Et c'est qu'en France.
Titulaire d'une carte de transaction, carte de transaction qui peut être déléguée en France, donc c'est le cas dans la majorité des agents immobiliers, et puis IAD, dans sa grande croissance, a poussé ce concept, puisqu'elle est déléguée à nos 15 500 conseillers français. C'est moi qui... Enfin, on est plusieurs titulaires de la carte, mais je suis l'un d'entre eux. Et en revanche, dans les autres pays, oui, on parle de agents très librement, et puis, pour le coup, la loi est la loi, le règlement est le règlement. Nous, on est très pointilleux et on estime que, en tant que leader, on a un devoir d'exemplarité qui est encore plus fort. Donc,
ça change quoi
d'avoir... Si je dis agent, j'ai pas fait exprès.
Oui, mais ça change quoi d'avoir la carte, d'être agent ou... Parce qu'au final,
ça permet deux choses. Ça permet de rédiger des actes et de toucher des fonds. Rédiger des actes, quand on en parle avec les notaires, ils nous disent on préfère le faire nous-mêmes, merci. Après chacun aura son point de vue, et puis collecter des fonds, nous on collecte les fonds en centrale de façon extrêmement sécurisée. En tout cas, notre vision, elle est que pour les clients qui nous font confiance, et d'ailleurs tous les sites d'avis en sont le témoignage le plus probant, le service qui est rendu par les entrepreneurs d'IAD, il est au moins aussi bon que celui de nos confrères sur le marché. Sinon on n'aurait pas fait 62 000 transactions en France l'année dernière.
Donc ça n'a jamais été un frein?
À 32% de croissance en moyenne depuis 14 ans, je dirais que arithmétiquement, non.
Ouais. Ok, très intéressant. Il y avait cette question là d'Olivier autour de l'impact de la crise et questionnement en tout cas sur le pouvoir d'achat.
Oui, question légitime que se posent à la fois nos acheteurs, nos vendeurs, nos entrepreneurs et même les équipiers au sein de...
Oui, ça peut même faire l'objet de une de magazine. Est-il le moment d'acheter, de vendre?
Bien sûr. Si on lit la presse sur son téléphone, je ne dirais pas que c'est du real estate bashing, mais on décrit quasiment l'apocalypse. Écoute, nous, on regarde ça avec deux choses en tête. La première, c'est que l'année 2021 a été la meilleure année de l'histoire de France en termes de transactions immobilières. 1 200 000 transactions sur des prix records. Pré-Covid, le niveau nominal du marché immobilier en France, il était estimé entre 850 et 900 000. Donc c'est très significatif en termes de croissance. Et cette année 2022, malgré l'incertitude géopolitique, malgré le relèvement des taux, malgré les sujets de matières premières et d'approvisionnement, les experts, dont nous ne sommes pas, nous les écoutons avec attention, estiment qu'on devrait atterrir autour d'1 100 000 transactions et l'année prochaine 1 million. 1 100 000 transactions, c'est la deuxième meilleure année de l'histoire de France dans l'immobilier. Donc ça veut dire que si atterrissage il est en douceur. Deuxième point, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vigilant et lucide sur le fait qu'en Angleterre, aux États-Unis par exemple, la hausse rapide des taux a un impact sur le marché de l'immobilier. Donc c'est sûr que les conditions de marché ne seront pas les mêmes dans les 3 ans qui viennent que celles qu'elles ont été dans les 3 ans passés. Et on s'y adaptera et on accompagnera nos entrepreneurs pour qu'ils tirent leur épingle du jeu, ce qu'ils ont toujours fait dans les crises.
Il n'y a du coup pas de vraie réponse. Est-ce que c'est le moment d'acheter, de vendre? A priori, toi, tu me diras oui.
Non, mais déjà, il faut quand même garder en tête que dans la volumétrie de transactions en France, il y a trois quarts ou deux tiers des situations dans lesquelles la question ne se pose pas. Puisque,
besoin de bouger.
C'est lié à un événement de vie. Donc on n'est pas aux États-Unis où les gens déménagent en une semaine et se surendettent et sont chassés de leur logement. Néanmoins, les gens se marient, ont des enfants, divorcent, sont mutés, décèdent. Toute la vie moderne des familles qu'on connaît par cœur. Et donc ça effectivement, si on rajoute à ça, on en parlait il y a quelques minutes, l'envie d'espace, l'envie de verre, l'exode en dehors des métropoles trop stressantes. Voilà, le mélange de tous ces facteurs fait que la base du marché, elle sera jamais très affectée, elle continuera. Se loger, c'est un besoin primaire, vital. Et ensuite, derrière, il y a l'achat passion, l'achat résidence secondaire, l'achat locatif, l'achat investissement. Celui-là, il fluctue un petit peu avec le marché, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins. La base reste très solide. On ne parle pas d'un effondrement.
Très clair. Question RH. Alors, vous avez des équipes, oui, mais vous avez aussi tout ce réseau d'entrepreneurs que tu qualifies comme tel, et c'est le cas.
Oui, ils sont dans leur société, ils sont entrepreneurs parfois au départ, mais...
Mais du coup, en termes de management, d'embarquer, ça reste un sujet, parce que c'est le cœur de l'activité d'IAD. Tu as déjà managé d'autres équipes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent? Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Je serais curieux de savoir un peu comment...
Dans la famille IAD, il y a deux branches. Hein. Ouais. Il y a en effet la branche des membres de l'équipe. Donc, on a à peu près 500 personnes sur nos 6 pays. Et puis ensuite, on a la branche des entrepreneurs, des conseillers. Donc eux, ils sont plus nombreux, parce qu'ils sont quasiment 19 000. Et c'est effectivement... je sais pas, c'est même plus du management. C'est-à-dire que... Ce qui est génial chez IAD, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Nous, on prend tout le monde, tous les gens qui veulent rentrer. On estime qu'on peut les former, les transformer en bons professionnels de l'immobilier.
Personne.
Tout le monde rentre.
Personne.
Non.
Ok.
Tout le monde ne réussit pas. Ça, c'est. Mais sinon, ce serait magique.
C'est quoi? C'est une sorte d'académie. T'as la formation dont t'as parlé. À la fin, t'as un examen.
Non.
Même pas.
Non, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas envie d'être entrepreneurs, qu'ils n'ont pas envie de faire de l'immobilier.
Et il peut arriver que vous vous rendiez compte que vous n'ayez pas envie qu'ils deviennent des.
Non, jamais.
Jamais.
Nous, le seul critère, c'est qu'ils payent tous les mois pour les services et la formation. Bien. Et après, les gens s'en vont d'eux-mêmes parce qu'ils estiment que cette vie-là est pas faite pour eux. Nous, les seules raisons de départ, c'est la déontologie. Donc, okay. On parle de quelques dizaines de profils par an. Donc, pas de barrière à l'entrée. Mais l'autre chose qui est très importante, tu parlais de management, ce qui est évidemment très challenging pour nous, c'est qu'il n'y a pas de barrière à la sortie. C'est-à-dire que je suis
entre... Ils peuvent aller chez une autre crèmerie.
Et donc, tous les matins, on se réveille avec une obsession. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui sont customer first. Nous, on est agent first. C'est-à-dire que notre obsession, c'est que nos conseillers soient heureux en France. Et on se dit que si nos conseillers sont heureux, les clients finaux seront heureux. Et donc, finalement, on n'est pas du tout dans l'injonction ou le contrôle. On est dans l'influence et la célébration. Et donc, c'est un management qui est très différent, qui est un peu subtil et qui est passionnant.
Et alors, comment on leur dit merci? Comment on les rend heureux de se lever le matin?
Alors, il y a une composante...
J'aime bien les petits secrets, les petits tips qu'on peut partager pour d'autres.
Il y a une composante clé qui a été un petit peu mise à mal par la période Covid chez IAD, c'est les événements.
Ouais.
Et effectivement, moi, j'ai rarement vu un savoir-faire événementiel et une ferveur dans ces événements aussi importante que ce qu'on constate là. Alors, les souvenirs sont assez frais, puisque vendredi, il y a une dizaine de jours, nous étions dans le parc Walt Disney Studios qu'on avait privatisé pour plus de 4000 conseillers IAD. Et derrière, on a fait une heure et demie de plénière où... la marée humaine, les drapeaux, les hurrahs, les applaudissements étaient à destination des champions de l'équipe. Et les champions chez IAD, c'est à la fois les gens qui ont fait le plus de ventes, mais à la fois les gens qui ont parrainé le plus grand nombre de nouveaux conseillers, à la fois les jeunes conseillers qui ont moins de 3 ans ont eu le parcours le plus exemplaire, parce que pour le coup...
Oui,
et puis un autre élément atypique, tu soulignais à l'instant, avec un peu de surprise, le fait qu'on ne sélectionne pas à l'entrée. De la même manière... on n'a pas d'impératif de performance. C'est-à-dire qu'on a plein de gens chez nous qui disent
Moi, pour
vivre, j'ai envie de faire 4 transactions par an parce que je suis vice-championne de France de parachutisme.
C'est vraie histoire du coup.
On a même un médaillé olympique chez IAD.
Okay.
Des militaires, on a 1000 histoires absolument incroyables. Donc j'ai un engagement sportif, associatif, familial. Et donc du coup, je veux faire 4 transactions par an et ça me permet de travailler 2 jours par semaine, 4 mois par an. Et nous, ça nous va très bien, ça. Ça nous va très bien. Et de l'autre côté, on a des champions qui font 60, 70, 80 transactions par an. Les deux nous conviennent. Donc la liberté d'emploi du temps que les gens viennent chercher chez nous, elle se traduit aussi par ça.
Le modèle permet de ne pas être exigeant sur les performances, que dans tous les cas, il n'y a pas de frais fixes, de salaire. Donc ça s'entend. Mais du coup... La concurrence est rude. Est-ce que c'est le fait d'être entrepreneur qui font qu'ils viennent, et donc cette liberté que vous leur offrez, ou est-ce que il faut mettre beaucoup de choses en plus de cette simple liberté versus des salaires qu'ils pourraient prendre peut-être chez des confrères?
En France, il y a plus de 100 réseaux de mandataires indépendants.
Ok.
Et comme je le disais tout à l'heure, ça représente un petit tiers du marché immobilier aujourd'hui. Donc évidemment. Cette aspiration à la liberté et à l'entrepreneuriat, c'est un facteur clé. Ensuite, il faut être capable de se différencier. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on représente un peu plus de 40% de la catégorie de ces 100 et quelques réseaux aujourd'hui. Donc on est un net leader, voilà, c'est ouais. Purement factuel. Donc la primo leadership, elle existe, mais elle est créée par le fait qu'on estime qu'on n'a pas les plus mauvais outils, pas le plus mauvais système de rémunération. 15 000 collègues sur le territoire français qui peuvent vous dépanner, vous aider et faire une vente en partage avec vous. Donc beaucoup d'atouts,
ouais,
qui nous permettent encore aujourd'hui d'intégrer plusieurs centaines de nouveaux IADiens tous les mois.
Donc tu as les IADiens
et IADiennes
évidemment. Donc tu as les externes, les entrepreneurs, les conseillers, les agents, peu importe comment on les nomme. Et tu parlais de 500 personnes en interne
environ, ouais,
dans le monde. Parmi eux, certains sont constitués en équipe avec IAD Studio. On a une question sur le sujet et j'aimerais bien qu'on développe un peu.
Vous avez un message.
Bonjour. IAD a créé IAD Studio il y a un an pour développer et proposer de nouveaux services basés sur la technologie à ses clients. Quel bilan faites-vous de cette première année et sur quel projet travaillez-vous aujourd'hui?
Donc c'est une question d'Anne Taffin qui est journaliste chez Madinès. Notre partenaire.
En effet, elle a eu le nez creux. IAD Studio, c'est une initiative dont on est assez fier. Elle vient du fait que nos équipes product et tech chez IAD, c'est plus de 150 personnes aujourd'hui. Et en bonne gestion du quotidien, ils priorisent ce qui est urgent et important. Et donc, tous les sujets de réflexion sur quels sont les outils d'après-demain passent à juste titre en priorité 27 tout le temps. Donc nous, on s'est dit que pour toujours garder cette longueur d'avance et voire même l'accentuer, il serait utile de créer une équipe qui aurait pour mission non pas de créer les super outils de demain, parce que ça, on a déjà plein de gens qui font ça,
ouais, ouais,
et les outils super géniaux d'après-demain.
Ouais.
Donc ça s'appelle IAD Studio, c'est une structure agnostique dans laquelle on n'a pas forcément vocation à développer nous-mêmes. Donc ça peut être des partenaires, ça peut être des technos qu'on acquiert, ça peut être des technos avec qui on fait des partenariats. Donc on a fait un partenariat avec une société finlandaise. Et donc, toute cette réflexion, elle est comment créer après-demain un agent encore plus augmenté, encore plus performant. Et pour te donner 3 exemples qui partent de l'analyse des besoins de nos conseillers en leur demandant quels sont vos pain points principaux, on en a sélectionné 3 qu'on a traités. Le premier, c'est...
Et dont tu peux parler aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Même si 2 d'entre eux sont... Enfin, 1,5 d'entre eux sont pas encore complètement sortis.
Okay.
Le premier qui est déjà à disposition des conseillers, c'est qu'on a plein de clients qui n'ont pas de plantes chez eux. Et donc, on a une solution où, en faisant une vidéo sur son téléphone, en se baladant dans l'appart ou dans la maison...
Il peut voir les plantes qu'il pourrait mettre.
On génère un plan 2D, ouais, avec les cotes.
Ah, j'ai compris, des plantes.
Non, un plan.
J'étais là, j'ai dit, oh, je fais...
On est très ESG, okay, chez IAD,
mais ok.
On est plus terre à terre pour l'instant. Alors, on a une deuxième solution qui est en test aujourd'hui autour de chez 500 entrepreneurs français, qui est un outil d'amélioration des photos. Parce que si, comme tout le monde, tu t'es baladé sur les portails, il y a parfois ça donne
boire
pas très,
à manger,
ça donne,
ouais,
pas très envie. Ouais. Et comme partout.
Et à l'inverse, il y a des agences qui te pimpent les photos et c'est pas non plus.
Très bon point. Il faut trouver le bon équilibre, ouais, entre présenter le bien sous son meilleur jour, mais un jour qui soit pas un jour fallacieux.
Ouais.
Donc si.
Ah, pas déceptif une fois.
S'il pleut tous les jours, un coucher de soleil rougeoyant, c'est pas bien. Mais à l'inverse, si la photo elle est droite, elle est bien exposée, elle présente bien le lieu. Donc là-dessus, on a et des filtres, et des conseils, et des... En tout cas, on a un appareil photo augmenté qu'on met à disposition des conseillers.
Permet de standardiser, voilà, ce que doit être une belle photo pour valoriser un bien.
Et le dernier outil qu'on développe en partenariat avec C-Labs, qui est une chouette société française, c'est le dernier pain point le plus important des agents, c'est rédiger un texte. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en partant du jeu d'informations factuelles sur les mètres carrés, l'adresse, le nombre de chambres, et en faisant appel
les
à des
écoles alentour, voilà, peut-être.
Absolument. Ouais, en faisant appel à des bases de données d'open data à l'extérieur, on peut proposer une pré-rédaction de l'annonce au conseiller. Et comme pour la photo, hein, nous on a 20% des conseillers qui sont des passionnés de photos, 80% pour qui c'est pénible. On a 20% des conseillers qui sont des loteries à mont en herbe, et on en a 80% pour qui c'est pénible. Ouais. Et donc
on peut pas avoir toutes les compétences, non, et toutes
sûr.
Les.
Ouais, et, bien notre, sûr, ouais. Et notre rôle, c'est d'épauler et d'accompagner nos équipes sur le terrain pour les rendre les plus performantes possibles. Et donc voilà trois exemples de choses qui sont pas révolutionnaires, mais qui sont quand même un peu impressionnantes quand on les voit tourner.
Je te rajoute un pain point côté acheteur.
Ça sent le vécu.
Vécu entendu, mais d'arriver à se projeter dans un bien qui est en travaux. C'est sûr qu'il y a des travaux à faire, où il y a peut-être des projections, des possibles. Ça, c'est déjà des choses que vous faites, des choses sur lesquelles vous travaillez,
ouais,
vous allez parler demain.
Des outils de home staging virtuel dans lequel, effectivement, au-delà de la qualité de la photo, quand il reste le fauteuil de mamie Janine en velours côtelé orange au milieu du salon, c'est mieux si d'un petit push du doigt, ouais, on peut le supprimer et enlever le papier peint motif Liberty pour le remplacer par une peinture un peu plus neutre. Donc ça rentre dans les sujets photos qu'on est en train de traiter aujourd'hui.
Si on se projette, et sans dévoiler ce que tu ne peux peut-être pas dévoiler, mais votre métier complètement réinventé à 10-15 ans, tu arrives à le dessiner, à l'imaginer? En fait, j'en veux plus sur ces projets de studio.
Non, mais effectivement, jusqu'où on peut aller à travers ça, c'est probablement, tu le disais à juste titre, en rajoutant aussi du contexte. C'est-à-dire que sur le bien lui-même, je pense que dès lors qu'on a une visite virtuelle, des belles photos et un descriptif qui a du sens, c'est bien. Ensuite, être capable de le qualifier en termes de est-ce que c'est un havre de sérénité ou à l'inverse un refuge pour urbain hipster. Donc donner du contexte, donner du quartier, donner de la profondeur, c'est probablement
une projeté dans la vie que tu vas vivre. Absolument. Une fois que tu seras dedans, quoi.
En revanche, ce que tu ne nous entendras jamais dire, c'est que la technologie prendra la place des humains, parce que moi je dirige un réseau de quasiment 19 000 personnes. Donc si je te disais que l'humain connaît sa limite, parce qu'effectivement l'immobilier c'est pas un filet de courgettes bio, c'est souvent l'achat ou la vente la plus importante d'une vie, c'est important pour ses enfants, c'est important pour sa famille, pour son devenir professionnel. Donc la capacité qu'on a nous,
oui,
de mettre en avant
la techno sera au service
des agents, agents first. Donc effectivement nous ne sommes pas dans l'achat instantané d'appartements qu'on appelle iBuying, nous ne sommes pas dans les métiers full digitaux. Il y a des endroits, des pays, des configurations dans lesquelles ces modèles ont du sens, ça n'est pas le nôtre.
On a pas mal de sujets encore à aborder. Je te propose de... il nous reste une quinzaine de minutes. Oui, c'est le temps de passer à la claque.
Allez.
Pardon, pas du tout.
Car...
Non plus, attention.
Waouh.
Une claque. Moi, tu connais le... Je t'en ai parlé avant qu'on... Ouais, je t'en ai parlé avant qu'on rentre dans l'espace.
Écoute...
La claque de Clément.
Moi, depuis que j'ai entamé ma vie professionnelle, j'ai été à la fois confronté à des situations de forte croissance. On a parlé de c'est le cas d'IAD, qui sont plutôt des moments agréables dans lesquels on recrute des gens, les organisations grandissent. Et puis avant de rejoindre IAD, j'ai fait un passage de 3 ans dans la presse grand public, puisque j'ai dirigé Libération et l'Express pendant 3 ans, dans des environnements économiquement beaucoup plus complexes. Donc qui perdent de l'argent, avec des revenus en décroissance, avec des équipes et des populations qui sont très stressées et très, très, très anxieuses par rapport à leur avenir, et dans lesquelles il faut réussir au quotidien un équilibre qui consiste à la fois à se dire trouvons des moyens de revitaliser les revenus et donner une pérennité à l'entreprise, et de l'autre de constater que ça n'est malheureusement pas possible en conservant la même taille d'équipe et le même niveau d'investissement. Et donc, cet exercice d'équilibriste qui est vraiment complexe et parfois pesant, hein, pour être tout à fait honnête, que j'ai fait pendant 3 ans avec les équipes.
C'est, c'est plus plaisant d'embaucher des gens que de s'en séparer.
Ouais. Et puis des gens qui n'ont pas démérité. Ouais. Et c'est juste que les usages ont changé et que la complexité, c'est d'être capable de faire passer ces messages-là. Et donc moi, ça a été une longue claque de plus de 1000 jours pour se dire comment j'arrive à raconter les deux. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de gens qui partent, qui sont parfois dans des situations personnelles un peu complexes.
Et il y a ceux qui restent qu'il faut garder, voilà, et embarquer, puis, motiver.
Et avec un ciel qui sera peut-être plus bleu demain. Et donc, ce serait trop long de raconter tous ces moments-là. Et puis moi, j'étais très fier de travailler avec les équipes et d'amorcer en tout cas une trajectoire qui donnait à ces deux marques fantastiques une pérennité, puisqu'à la fin, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comment il reste un titre, comment il reste une marque, comment il reste de l'information de qualité, malheureusement en ayant dû prendre des décisions difficiles. Voilà, c'était mon bouquet de claques.
Qu'est-ce qu'on fait d'une claque comme ça? Tu vois, typiquement, t'es dans une nouvelle aventure. Alors là, certes, peut-être en croissance, mais qu'est-ce que ça a éventuellement changé en toi pour appréhender différemment, ou peut-être pour faire des choix professionnels différents, se dire je vais peut-être plus aller dans la presse, c'est complexe, j'en sais rien.
J'y reviendrai peut-être un jour, parce que pour le coup, moi je trouve qu'il y a une dimension quasiment civique qui est extrêmement passionnante autour de ça. Moi je dirais que même si ça n'a jamais été mon caractère, ça a renforcé le fait de dire que même les plus beaux succès rencontrent parfois des écueils. La presse magazine en France dans les années 90, c'était indécemment rendable. C'était le Graal, tout était possible, c'était absolument fantastique. Pour les moins jeunes d'entre vous, si vous vous rappelez l'épaisseur des news magazines à l'époque, c'était absolument faramineux. Et donc dans le pilotage d'IAD, qui est pourtant qui commence quasiment à être un super tanker en termes de taille, mais qui accélère très vite, un peu comme un hors-bord, je pense que ça renforce notre prudence pour se dire, voilà, ces 30% de croissance depuis la création, c'est fabuleux. Prenons pas de risques inconsidérés. Sachons toujours d'où on vient, qui nous sommes, et que les choses peuvent se retourner, et que si elles étaient amenées à se retourner,
on est prêt.
Tu posais la question tout à l'heure, licorne, centaure. IAD était un centaure depuis 6 ans, si mes calculs sont bons, pour remplir les critères. Donc IAD a les reins suffisamment solides pour se dire que s'il y a une période un peu plus compliquée, ouais, comme celle qu'on évoquait tout à l'heure, avec les nuages noirs qui s'accumulent actuellement ou gris autour de la conjoncture, on aura la capacité à le supporter et à être au service de nos entrepreneurs comme on l'a toujours été.
On a une thématique qu'on va évidemment pas pouvoir dérouler très longtemps, mais avec Olivier, on aime bien parler du monde d'après, le monde en fait dans lequel on va et dans lequel on est un petit peu. Tu viens de la presse, tu l'as évoqué, t'es aussi dans un monde de tech. Aujourd'hui, on s'informe beaucoup plus en ligne, beaucoup plus sur des réseaux sociaux, et c'est aussi des vecteurs de grosses désinformations. Je serais curieux d'avoir ton regard là-dessus. Je l'ai dit en intro, tu es aussi papa. Donc tu es citoyen, tu es papa, tu es entrepreneur. Je serais curieux de savoir comment tu appréhendes les choses.
C'est un vrai enjeu. Je pense d'éducation déjà dans le cercle familial pour essayer de casser cette équation de « c'est sur Facebook, c'est vrai ». Comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et sans entrer et sans nier la transformation des usages, puisqu'effectivement aujourd'hui on s'informe sur son téléphone de façon extrêmement majoritaire, de pouvoir aiguiller vers des sources d'informations fiables. Alors les deux titres de presse, il n'y a pas que des titres de presse déjà, il y a la télé, il y a la radio, puis il y en a plein d'autres dans lesquels moi je n'ai pas travaillé. Exactement. Donc, et c'est fantastique d'avoir aujourd'hui une information qui est plus protéiforme, mais en revanche voilà, trier le bon grain de livret, c'est de plus en plus compliqué.
La bonne information coûte cher à produire.
Oui.
Tu viens de ces sujets-là, donc c'est.
Ça. Je viens d'un univers dans lequel moi je regarde moins négativement que ce qu'on peut lire, ce que moi j'appelle la préservation ou la sauvegarde de médias exemplaires par des milliardaires. C'est-à-dire que moi j'ai vécu 3 ans dans un groupe où j'ai pas eu une seule intervention dans la ligne éditoriale de mes titres. C'est-à-dire que je travaille avec Patrick Drahi et Alain Veil. Il suffisait de lire Libération tous les jours pour se rendre compte que Libération n'était pas passée à la botte de Patrick Drahi. Et donc cette capacité à sauvegarder, il y a de plus en plus de titres de presse qui sont au sein de fondations, effectivement, c'est, même si ça coûte cher, je trouve ça assez, assez très positif même d'ailleurs, que des gens qui ont très bien réussi à côté utilisent leur argent pas seulement pour acheter des œuvres d'art ou des bateaux ou des hôtels, mais aussi pour faire vivre une information de qualité critique, et donc quel qu'en soit le bord.
Et donc une démocratie.
Absolument.
Je te propose, du coup c'est une super transition, je te propose de prendre les manettes, en tout cas pour un court instant, de notre pays.
Française, français.
J'avais promis au dernier invité qu'on changerait la punchline de fin, ce sera pour la prochaine. Clément, tu as les manettes de notre pays, les pleins pouvoirs, que décides-tu ?
Écoute, moi j'ai l'opportunité fantastique là chez IAD de passer plus de la moitié de mon temps à l'étranger, et je me rends compte que le fameux poncif du français pas adapté à l'international, c'est pas un poncif en fait,
c'est
la réalité. Et pour le coup, tu le disais en effet, moi je suis papa, j'ai à la fois des enfants grands qui ont 17 à 19 ans et puis une petite fille plus petite qui a 4 ans. Et si rétrospectivement je trouve que ce qui leur a manqué, c'est cette capacité même s'ils l'ont parfois développé par eux-mêmes, mais que l'éducation leur apporte le fait de pouvoir vivre au-delà de nos frontières. Et j'entends et je lis dans Paris qu'on commence à développer un peu d'enseignement bilingue français-anglais dès la maternelle. Et ce qui est très dommage, c'est que...
souvent en privé.
Alors aujourd'hui, très souvent privé, ça commence à arriver dans le public. Mais je trouve que c'est une initiative qui mériterait d'être largement accélérée, à la fois parce que la diversité des cultures, des géographies, c'est une source d'enrichissement majeur, et que c'est dommage qu'une barrière sociale, financière se recrée dans la capacité des enfants jeunes à appréhender cette réalité et à pouvoir se projeter.
Explorer le monde.
Exactement.
Et leur propre vie.
Tout à fait.
Écoute, 5 minutes, top chrono, c'est ta carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Alors là, t'as vraiment un boulevard pour toi.
Alors écoute, je vais tenter de respecter le délai.
On a 5 minutes en tout.
Je vais en profiter parce qu'on a beaucoup parlé dans ce format un peu réduit d'IAD, du modèle de la partie professionnelle. Et de la structure et de comment elle se développe de façon positive, de façon plus personnelle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans une grande famille de ni d'entrepreneurs, ni de patrons de business. Et je voulais tirer un chapeau particulier à mon grand-père qui a fêté ses 95 ans il y a 10 jours et qui a tout au long de mon parcours été ma figure tutélaire, non pas de l'entrepreneuriat, mais en tout cas de l'entreprise. Puisque dès mes 7 ou 8 ans, il avait, à la force du poignet, non diplômé, grandi au sein du Crédit Industriel et Commercial, le CIC. Et dans mes yeux d'enfant, il voyageait à l'étranger, il allait aux États-Unis, au Japon, il ramenait des objets incroyables. Et donc au début des années 80, puisque j'étais écolier au début des années 80, même si ça nous ramène un petit peu loin, il était la personne qui, pour moi, représenter ce que ça pouvait vouloir dire l'entreprise. Un costume, une cravate, donc c'était absolument fascinant pour moi. Et puis il a continué à m'accompagner. Donc pendant mes études en école de commerce, j'ai eu le plaisir avec Antoine, dont on a entendu le témoignage tout à l'heure, de participer à des concours de projets d'entreprise dans lesquels il nous fallait un mentor. Et donc à chaque fois dans la salle, on avait le mentor le plus âgé. Et donc à l'époque, 74 ans, qui trichait, qui regardait les chiffres des autres, qui leur faisait des petits croche-pieds, qui leur mettait des coups de coude.
Il devait pas oser lui dire quoi que ce soit.
Sa sagesse bancaire acquise pendant 30 ans à travailler avec des entreprises au sein du CIC, il répétait qu'une entreprise se tire toujours par la caisse. Je l'ai absolument gardé en mémoire. Et puis même aujourd'hui, alors que c'est pour lui potentiellement à 95 ans un peu plus compliqué de s'informer, il suit avec attention sur IAD, il a très bien compris le modèle, il lit les articles dans les Échos, il regarde les vidéos, et donc je trouve que une transmission familiale aussi longue, c'est assez rare, et puis moi j'en suis à la fois très fier. Je suis pas sûr qu'il nous écoute aujourd'hui, mais en tout cas je voulais lui passer ce message.
Écoute, tu pourrais lui faire passer assez facilement, enfin en tout cas je pense. Quand on est petit, évidemment on voit la figure souvent de ses parents ou de ses grands-parents comme étant parfaite. Quand ça dure comme ça, on apprend aussi des choses de la vieillesse et de ce que doit être une vie. ça doit être quoi une vie ? Avec le regard que tu as de ton, j'allais dire jeune âge, mais tu n'es pas si jeune, mais tu n'es pas si vieux. Mais justement, en observant ton aîné, quelle est la vie que tu souhaites ?
Écoute, si j'arrivais à répliquer quelque chose que lui a su construire, c'est effectivement la présence, l'attention aux autres et la curiosité sur ce que peuvent réaliser à la fois dans leur vie personnelle, bien sûr, mais aussi leurs hobbies, leurs activités, le sport, qui est un sujet de conversation dans notre famille qui est très important. Et effectivement, la partie professionnelle, à la fois ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants aujourd'hui. Et donc, garder le lien, garder cette vivacité, cette curiosité et cet intérêt pour les autres, et cette capacité à transmettre. Et pour le coup, moi je pense que parmi les choses dont je suis le plus fier dans mon parcours professionnel, c'est les gens qui démarrent dans l'équipe, qui sont alternants, et puis 6 ans après, ils vont monter une filiale à l'étranger, ils ont monté une équipe, et donc tout ce qui est possible de transmettre, de passer, tout en restant ouvert et curieux, voilà, si j'arrive à faire ça, ce sera déjà pas mal.
Et ben rendez-vous dans une 50aine d'années. On va transmettre aussi tes amitiés à ta sista, celle que tu as choisie pour conclure ce podcast. Sur quelques notes revisitées d'Aretha Franklin, la sista de Clément est...
Écoute, en termes capillaires, elle n'est pas si loin d'Aretha Franklin.
Ok.
Et on n'est pas très loin de l'exercice d'aujourd'hui du podcast, puisque moi je voulais tirer mon chapeau à Charlotte Pudlowski de Louis Media,
ouais.
Qui est la cofondatrice de cette formidable aventure humaine et éditoriale avec Mélissa Bounois. Mais c'est de Charlotte que je suis un peu plus proche. Et je trouve qu'elles ont réussi sur un contenu, des sujets, des angles qui sont exigeants, réussir à construire une équipe, une réussite des marques fortes et de l'impact sur, alors certes un peu plus de femmes ou de jeunes femmes que d'hommes, mais un peu des deux, en produisant et en racontant des histoires qui sont souvent absolument à la fois bouleversante, enthousiasmante et dans un équilibre qui est jamais très simple entre faire vivre économiquement une structure et raconter des choses fortes et engageantes. Et donc pour le coup,
c'est une belle aventure.
Tu l'as entendu tout à l'heure. Moi j'ai une proximité, une affinité avec le monde des médias, et le monde des médias, ça n'est pas que des titres qui ont 50 ou 100 ans. C'est aussi des podcasts entrepreneuriaux comme celui qu'on fait réaliser aujourd'hui.
Des podcasts plus grand public.
Voilà, ou des nouvelles formes ou des nouvelles marques qui
sont... Des nouvelles formes de narration.
Absolument. Et ça, moi, je trouve ça... L'audio est un médium que je trouve extrêmement puissant, en particulier dans nos vies hachées par les transports. Et pour le coup, Louis Media joue un rôle là-dessus positif et important.
On va lui poser une question en ton nom. Je te propose de t'adresser directement à elle, on fera un extract et un...
Écoute, je t'ai senti curieux tout à l'heure sur les prochains projets d'IAD Studio. Oui. Voilà, moi, je serais très curieux de savoir quel sera le prochain carton ou la prochaine prise de risque importante éditoriale de Louis Media.
Je prends. Merci beaucoup Clément, je te libère pour que tu n'ailles pas retrouver tes enfants.
C'était
à la gendarmerie.
Plaisir.
Et peut-être qu'on aura l'occasion de faire une partie plus personnelle.
Une deuxième heure.
Voilà.
Je reviendrai très volontiers.
Tu reviendras. Et bien à très bientôt.
Merci.
Merci.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.